Dire tout à l'heure, ce qui est arrivé, c'était ça, dit Olivier, la même chose que ça. L'aube essayait de se glisser toute blanche entre la lourde nuit et la petite crête de la côte 34, on y voyait maintenant. Tout s'était découvert de la terre blessée et du grand Santerre aplati sous le poids du ciel. On entendit le capitaine qui montait. Il déboucha de la porte courbée en deux. Il se redressa. Il avait mis sa chasuble en peau de mouton poil dehors. D'une main, il tenait son grand couteau à déclic, de l'autre, à plein ventre, un gros hareng décapité et qui jutait de la laitance. Il mâchait son poisson. « Bonjour », il dit. Il alla chercher avec ses doigts au fond de la bouche une longue épine courbe. On sut tout d'un coup où étaient les autres. Ce grand Santerre et ce brouillard, et cet horizon qu'on imaginait sans limite au-delà du brouillard, ça ne donnait pas beaucoup d'explications à ce sujet. C'était toujours le calme, deux coups de mitrailleuse, un obus qui venait de loin passait haut et s'en allait. C'était toujours le calme, calme, comme avait dit Joura quand il était revenu de la première garde. On sut tout d'un coup où étaient les autres. Vers le soir un vent passa dans le brouillard. Depuis un moment on entendait des bruits de pas dans la boue, un piétinement de bouts et de terre, mais on n'y avait pas donné toute l'attention. On avait tant à faire avec toute cette ancienne vie perdue et qui maintenant, dans le calme, scintait d'entre les minutes du jour. Et puis brusquement ce vent passa dans le brouillard et il y eut un grand espace de terre vide, tout bien visible. « venez voir !» cria le caporal. On regarda par-dessus la tranchée. Ils étaient là-bas à une centaine de mètres. Ils couraient, le vent les avait surpris. D'un côté, ils sortaient du brouillard et de l'autre ils y rentraient. Ils défilaient en plein champ au-dessus de la tranchée. Surpris par le vent, ils se courbaient un peu, ils couraient en tenant leurs fusils comme des bâtons et, de temps en temps, dans la ligne sombre de leur troupeau, il y avait la tache pâle d'un visage qui regardait de ce côté. Pourvu que les crapouillots, on regarda dans la direction de l'artillerie de tranchée. Sur l'emplacement des lance-bombes, on voyait les têtes des artilleurs qui émergeaient de la terre. Ils regardaient aussi. Olivier dressa la main bien haute et il la bougea doucement de haut en bas pour leur dire « Attention, soyez tranquille ». Le sergent lui fit un signe en réponse. Ça disait « Ne t'inquiète ». « Oui, volontaire », avait dit Jolivet, il y avait tant de malheur dans ses yeux. Ça avait coulé sur son visage, ça avait creusé de grands sillons qui s'en allaient de dessous l'œil jusqu'à la bouche. Depuis, il prenait tout seul la garde à l'avancée dans un petit trou, devant les barbelés. Il y avait juste sa place. Il se blottissait là-dedans. Il ne dépassait pas la terre. La brume bouchait le trou comme avec une grande pierre plate et ainsi Jolivet disparaissait du rond du monde. « Parce qu'on lui écrit plus, dit la poule. » Olivier se souvenait de ce Jolivet du renfort, de cet homme neuf, dessus et dessous, avec des joues rondes et un petit sourire de malice luisant, fleuri de douces dents blanches. Un matin, il était là, serré dans sa boue. « Monsieur, monsieur, il y avait un pauvre visage d'homme collé contre le rebord de son trou. Jolivet prit son fusil, camarade. » cria l'homme de toute la force de son pauvre corps, avec tant de force qu'après le cri il resta comme vidé, la bouche ouverte, les yeux fermés, plus blanc que le brouillard, plus blanc que cette salive écumeuse qui coulait de sa bouche ouverte. « Oh, l'homme !» dit Jolivet. Il l'agrafa par le col de sa veste et il le tira à lui. L'autre cédait du genou et du coude. Il tomba dans le trou. Trois balles de mitrailleuse sifflèrent juste dans la direction d'où il était venu. « Reste là, » dit Jolivet, « couche-toi. » Il lui faisait signe avec la main. L'autre se coucha au fond du trou, la bouche dans la terre. Il avait tourné sa tête de côté et il regardait ce grand homme brun qui guettait l'avant, une main sur la culasse du fusil. La mitrailleuse s'arrêta. Elle recommença à chercher d'un autre côté dans la brume. « Dresse-toi, » dit Jolivet. Il se dressa d'abord lui-même pour faire voir que ça allait, il tenait son fusil par le milieu comme une massue. « Dresse-toi !» C'était un pauvre homme, trop petit pour son épais costume, le cou au milieu du col comme un crayon, les manches allongées par tout ce qui était de reste aux épaules. Et pour ce visage, Jolivet pouvait regarder son propre visage avec le malheur débordant de ses yeux, comme une flamme de lampe et les grosses traces de griffes sur la peau des joues. L'homme enleva son casque, ça lui avait marqué autour du front une raie rouge comme des blessures d'épines. « Oh, l'homme, » dit Jolivet. « Oh. Monsieur, » dit l'autre avec un tout petit sourire où il se donna tout entier vite, vite pour se remettre aussitôt à son inquiétude. « Passe, je te vas mener au capitaine, » Jolivet fit signe avec la main. Le prisonnier marcha devant lui, il tournait de temps en temps la tête pour interroger du regard. Oui, tout droit faisait Jolivet et en lui-même, il pensait « la garce, pas écrire ». Plus d'un mois, la garce, une belle chiennerie ça doit être. Attends, Jolivet se pencha sur l'escalier, il n'y avait en bas que la flaque pailleuse de la bougie. Il appela « mon capitaine », il y eut un long craquement de bois, puis un grognement.